Le désert et la Bible. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, c'était pendant la guerre, écrivait « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. » Une expérience toute naturelle du silence et du désert que notre cher Antoine de Saint-Exupéry a vécu, mais nous savons, nous, quand nous allons au désert, nous n'y allons pas pour des raisons techniques. Lui, c'était son avion qui était tombé en panne dans le désert vers l'Afrique, et du coup, il était coincé. Il n'avait pas d'autre chose à faire que d'apprécier le désert comme une valeur esthétique. Quand nous allons, nous, chrétiens, au désert, c'est pour rencontrer le Dieu vivant. C'est pour rencontrer aussi des hommes et des femmes qui se consacrent entièrement à Dieu dans le désert, dans la vie monastique par exemple. Et pour ma part, mes expériences de désert m'ont conduit à voir des moines. Et j'aimais beaucoup cet apophtegme qui disait « Je ne suis pas un moine, mais j'ai vu des moines ». Et nous comprenons par là que certains sont appelés ainsi à partir au désert, à suivre l'absolu de Dieu, et que l'on soit appelé dans le Hogar, et j'ai eu la chance d'aller dans les ermitages du père de Foucault, ou sur les hauteurs au-delà de Tamanrasset, au nord de Tamanrasset, le père de Foucault avait établi quelques ermitages, et j'ai pu vivre comme ça avec quelques frères de Foucault qui étaient sur les hauteurs, ou encore à Médéa, à Tibérine, là où étaient les fameux moines de Tibérine. J'ai été accueilli par eux et j'ai vécu des temps de désert, ou au mont Athos, sur le mont Athos où j'ai pu séjourner une quinzaine de jours, ou dans les monastères d'Égypte où j'ai pu aller marcher avec les moines dans le désert. Et bien à chaque fois, une expérience très forte où ils me disaient les uns et les autres, l'essentiel c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et du coup, si vous voulez, ce n'est pas le paysage ou le silence ou l'aspect des roches, d'ailleurs pas toujours aussi silencieuses ces roches ou ces étangs ou ces réalités que l'on pourrait imaginer. Il y a toujours un petit lézard qui passe, il y a toujours un oiseau qui vole et qui nous attire d'ailleurs parce que nous aimons la vie. Et le contraste que produit le désert, c'est que nous sommes des vivants dans un lieu, malgré tout, où la mort règne au maximum. En tout cas, plus que dans les lieux habités et qui accueillent une nature florissante. Et donc, le grand changement qui advient quand on est dans ce désert, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le cœur, la balance du cœur. Et je vous recommande beaucoup d'aller voir cette émission qui, il y a quelques années, sur Antenne 2, a paru et qu'on trouve encore sur YouTube en tapant « Solitude » pluriel, plus loin, la balance du cœur. Et là, vous aurez l'expérience des moines de Saint-Macaire, où je suis allé, les moines donc, où vivait le père Mathaël Mesquine. Vous verrez encore dans la vidéo quelques passages où le père Mathaël Mesquine s'exprime. Maintenant, il est décédé. Mathieu le Pauvre, comme on l'appelait, un grand spirituel. Il m'avait proposé de rester un an chez lui au désert, mais il fallait bien sûr s'expatrier, apprendre l'arabe, chanter en copte les liturgies. Bref, c'était beaucoup de challenges et bien sûr, ceux qui me dirigeaient à l'époque ont trouvé que c'était un peu long. Et du coup, je suis rentré en France pour vivre ma vie religieuse classique. Mais vous voyez, ces expériences de désert, ça vous reste et c'est un lieu sur lequel vous avez envie de parler. Et je me suis aperçu que très souvent, l'Écriture nous parle de ce mot du désert 270 fois dans la Bible hébraïque avec le mot « Midbar » qui est le désert et 47 fois dans le Nouveau Testament avec le mot « Eremos ». « Eremos », c'est le mot qui a donné, vous savez, « érémitique » ou « ermite hein, ». C'est cette racine grecque qui a donné ce nom à des gens justement qui vivent toute leur vie au désert. Quant au mot « midbar » en hébreu, il est en consonance avec un autre mot très riche de la Bible, c'est le mot « dabar » qui qui est la parole. Et je vous lis le passage caractéristique de ce jeu de mots entre Midbar et Dabar, c'est Osée 2, 16, c'est pourquoi je vais la séduire, et c'est Dieu qui parle à propos de son épouse, hein, qui est Israël, hein, la bien-aimée, hein, la première alliance. Je la conduirai au désert, au Laratia à Midbar, donc au désert, et juste après, ve dibarti, et c'est le verbe donc qui a la même racine que le mot dabar, hein, qui veut dire parler, qui est le mot parole, al leva le bas, c'est-à-dire à son cœur. Et nous comprenons donc d'emblée, la révélation nous dit qu'il y a un rapport entre le désert et le cœur. Et nous allons essayer de le découvrir un petit peu plus en essayant de comprendre pourquoi on peut passer donc de cette réalité désertique, un peu marquée par la mort, et tout à coup, la rencontre de la parole de Dieu. Voilà le but de cette conférence, nous aider à découvrir que le désert, dans le fond, est un lieu privilégié pour rencontrer la parole de Dieu. Alors, le désert, il faut d'abord bien prendre conscience que c'est vraiment un lieu de mort, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connu ce désert avec les risques que l'on a. Un jeune moine, un jour, auprès des pères du désert, au IVe siècle, venait dire à un vieil Abba, ou Appa, comme on les appelait, « Comment se fait-il quand je marche seul dans le désert, j'ai peur ?» Et le vieux moine lui dit ben « C'est clair, c'est que tu es vivant. » Tout simplement, tu es dans la mort et toi tu es vivant. Et donc tu ressens une peur d'être happé par cette mort. Et de fait, saint Paul le dit par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 11, où il dit tous les dangers qu'il a affrontés, voyages sans nombre, dangers des rivières, dangers des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert. » Saint Paul donc énumère, parmi tous les dangers qu'il a connus, le danger du désert. Tout simplement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi se nourrir, et on risque très vite, évidemment, si on n'a pas des provisions suffisamment grandes, de dépérir. Hein. Danger de la mer, là aussi, c'est des sortes de déserts. Quand on est des longues heures sur un bateau, et saint Paul l'a connu, vous vous souvenez, dans le dernier moment où il va échouer sur l'île de Malte avec tous les autres passagers du même bateau, bah, ils vont connaître ce que c'est que de passer de longs jours sur une mer déchaînée. Danger des faux frères, c'est surtout cela qui l'a fait souffrir. Mais revenons-en sur le fait que le désert est aussi non seulement un lieu de danger pour notre propre vie, mais c'est un lieu de la tentation. En Hébreux 3:8, on recite le psaume invitatoire, le psaume 94, dans lequel on demande au peuple de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme cela s'est produit dans la querelle au jour de la tentation dans le désert. Car le peuple juif a connu, en sortant d'Égypte, au moment de sa libération de l'esclavage d'Égypte, un temps dur, un temps difficile, puisqu'il était soumis, dans le fond, à ce passage de la mer Rouge et après ce temps intermédiaire avant la terre promise, qui est le temps proprement dit du désert. Alors, il a beaucoup souffert et pendant cette souffrance, eh bien, il a été tenté à certains moments d'abandonner le Seigneur. Il s'est mis même à discuter avec Moïse et à le quereller en disant « Mais comment ça se fait? Tu nous as conduits au désert et nous n'avons plus rien à manger. Nous regrettons les oignons d'Égypte, nous regrettons les bonnes choses que nous avions. » Et donc Moïse a craint un moment d'être lapidé par le peuple tellement il était en révolte contre lui. D'où l'expression « querelle et tentation au désert ». Et heureusement, notre Moïse a crié vers Dieu et Dieu lui a indiqué le rocher qu'il a pu frapper et l'eau a coulé du rocher. D'autre part, il a prié pour avoir la manne, hein, le pain descendu du ciel, et d'autre part les cailles qui a permis au peuple de Dieu de survivre, vous voyez, mais dans un cri extraordinaire, il a obtenu donc que Dieu entende son cri et finalement lui permette de nourrir le peuple au désert. Le désert est donc souvent synonyme dans l'Écriture du lieu où le mal règne. Par exemple, l'Apocalypse nous le dit, hein, lorsque on nous dit que le visionnaire est transporté au désert en esprit, et il voit une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires et portant 7 têtes et 10 cornes. C'est l'image du démon. Et c'est le voyant, le visionnaire de Patmos, Saint Jean, qui est transporté donc au désert en esprit. Sans doute la petite île de Patmos que j'ai eu la chance de visiter n'est pas un désert, mais malgré tout, il y a des espaces de solitude et on peut très bien, effectivement, se mettre à l'écart et ressentir cet appel de Dieu. Le désert peut être donc le lieu de l'exclusion, le lieu à propos duquel les Actes des apôtres disent à propos de Judas qui a trahi le Seigneur, hein, où les apôtres remémorent le livre des psaumes et disent que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. Voilà la sanction qui est donnée contre Judas l'Iscariote qui a trahi le Seigneur. Donc vous voyez, le désert donc est considéré comme un lieu négatif, un lieu mauvais, un lieu presque de malédiction, hein, un lieu de mort. Et l'épître aux Hébreux que je citais juste avant dit un petit peu plus loin par rapport au passage cité « Et contre qui le Seigneur s'irrita-t-il pendant 40 ans, n'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres tombèrent dans le désert ?» Voyez, donc vraiment le lieu de mort, donc le risque est grand, mais il faut l'affronter. Et voilà que le désert peut devenir, à partir du moment où la main de Dieu est posée sur nous, un lieu de refuge. Voilà ce que dit encore l'Épître aux Hébreux, un petit peu plus loin, au verset 37-38 du chapitre 11, où on nous parle des anciens, des témoins de la foi de primitive, les prophètes en particulier, qui ont été lapidés, sciés, qui ont péri par le glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans les déserts. Errant dans les déserts, voyez. Et le fait que l'apôtre dise que eux dont le monde n'était pas digne est tout à fait frappant, parce que cela veut dire qu'il y a un esprit du monde qu'il faut savoir fuir. Et c'est sans doute l'expérience de tous ceux qui sont partis au désert, c'était pour quitter l'esprit mondain, l'esprit du monde. Le père de Foucault, c'est très net. Il est parti au désert pour se repentir des œuvres mortes qu'il avait accomplies comme jeune officier et dans les premiers temps de sa vie d'indépendance. Et partant au désert, eh bien, il était allé chercher le Dieu vivant. Et à ce moment-là, le désert se transforme, se mue non plus en un lieu de danger et de mort, mais en un lieu de refuge. C'est d'ailleurs ce qui est dit de notre mère, la Vierge Marie, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 6. « Après la naissance de l'enfant, qui fut enlevé jusqu'auprès de Dieu, est-il écrit, au verset 6, et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie. » Et un peu plus loin, on dit qu'elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, où loin du serpent, elle doit être nourrie un temps. Vous voyez, donc loin de l'adversaire, elle part au désert pour continuer l'œuvre de Dieu. Donc il y a comme une ambivalence, si vous voulez, le désert à la fois lieu de mort et possiblement lieu de refuge. Et donc, d'une certaine manière, à nous de choisir cette orientation par cette balance du cœur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire que, dans le fond, nous choisissions d'aller pour une raison, pour une finalité qui nous aide dans le désert à en faire un lieu de refuge. Et ce que nous voyons, c'est que finalement, Dieu va permettre que ce lieu spécial, anormal, va être comme un tremplin pour lui, pour nous aider à faire ce passage. Et cette anormalité, donc, peut servir de refuge pour nous. Retenons, par exemple, que Rouben, qui a voulu sauver leur petit frère Joseph, que les aînés voulaient tuer, eh bien, que dit-il au moment où Joseph était venu rejoindre les fils de Jacob, qui étaient jaloux de Joseph et qui voulaient le tuer? Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Et la Bible ajoute, c'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la Bible nous indique que, jeté dans une citerne déserte, eh bien, Joseph, celui qui va sauver le peuple juif en son temps en Égypte, en l'amenant là-bas, eh bien, ça va être comme une période intermédiaire. Être jeté dans un désert de citerne, c'est tout simplement pour permettre que l'action de Dieu advienne, et finalement, pour porter le peuple juif. Alors, il y aura des tas de circonstances intermédiaires. Une caravane de Madian va passer, on va le vendre comme esclave, il va se retrouver chez Putiphar. Chez Putiphar, il va être en combat avec la femme de Putiphar, qui va la faire jeter en prison. Et puis, finalement, il va devenir un héros du Pharaon, parce qu'il interprète les rêves de Pharaon, il va devenir le vice-roi d'Égypte, et puis va permettre de faire revenir tous ses frères à Géchen, dans un lieu béni que lui accorde Pharaon, à lui, à toute sa famille, qui va être sauvé ainsi. Donc vous voyez, le désert, à ce moment-là, est compris comme un intermédiaire dur, permis par Dieu, mais pour le salut de la communauté. Et on peut se dire que si nous avons des frères au désert, c'est peut-être à cause de cela, tout simplement. Il doit vivre ce temps héroïque au désert pour le bien de tous, pour le bien de nous tous qui recevons de lui, de ce courage, eh bien, une participation libérative. Donc, le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, qui devient ensuite un lieu de libération pour le grand nombre. L'Exode nous aide beaucoup à comprendre ce que Dieu a réalisé pour son peuple à travers cette expérience de libération. Et au début, eh bien, il nous est dit au chapitre 13, verset 18, après l'expérience des plaies d'Égypte et du départ finalement accordé par Pharaon au peuple juif, qui court après, qui finalement regrette de l'avoir laissé passer, qui le poursuit jusque dans la mer Rouge, et puis heureusement la mer Rouge se referme sur les Égyptiens et le peuple est sauvé de l'autre côté de la mer Rouge et peut continuer sa route au désert. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert de la mer des roseaux. C'est bien armé que les Israélites montèrent du pays d'Égypte. Et toujours au chapitre 13, on nous dit qu'ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Et c'est de là qu'ils osent donc affronter la mer Rouge, avec toujours le fameux bâton de Moïse qui ouvre la mer Rouge en deux. Et ce va-et-vient donc montre que le désert n'est pas nécessairement un lieu positif, mais c'est un lieu de passage, c'est un lieu intermédiaire en quelque sorte, dans lequel on peut avoir des nostalgies bien compréhensibles, mais il faut continuer la route et ne pas se lasser. C'est ce que disait Saint-Exupéry dans « Vol de nuit », une fois la route tracée, on ne peut pas ne pas la suivre. C'est la caractéristique du désert, c'est-à-dire le désert a resserré les voies en quelque sorte et on ne peut plus ne pas vouloir avancer. Et Dieu avait eu un stratagème extrêmement pertinent, puisqu'il y avait une colonne de nuée la nuit et une colonne de sable le jour qui montrait au désert comment et où avancer. Et ils sont restés quand même pendant 40 ans. Hein. 40 ans de désert où ils ont eu des surprises spirituelles, où ils ont vu Dieu qui les conduisait, hein, la gloire du Seigneur les précédant, ou la gloire du Seigneur les suivant, pour leur permettre, dans ce désert du Sinaï, de continuer à survivre. Alors, d'une certaine manière, ces manialia que Dieu leur a offerts, avec la manne, l'eau, les cailles, eh bien, c'est un peu reproduit au début de l'évangile de saint Matthieu, dans le moment où Jésus est lui-même au désert, il est en Galilée et les foules le suivent, mais n'ont rien à manger. Eh bien, Jésus, se rappelant de la manne au désert, va multiplier les pains en signe de la manne nouvelle qu'il donnera plus tard par sa très sainte Eucharistie. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, on est en Matthieu chapitre 14, « L'endroit est désert », vous voyez, c'est le mot « eremos » que nous retrouvons, « et l'heure est déjà passée, renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages acheter de la nourriture. » Et les disciples ne comprennent pas que Jésus, malgré tout, maintienne les gens sur place, parce que les disciples donc sont absolument persuadés que il y a donc que l'endroit est un endroit désert et que il faut accepter cette providence surnaturelle que Jésus fait. Et les disciples posent la question, où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Et de fait, qu'est-ce que va faire Jésus? Il les fait s'asseoir et il fait distribuer les paniers qui sont là de quelques pains, hein, quelques poissons, hein, et finalement tout le monde est nourri. Et le commentaire qui est donné par saint Jean dans son évangile au chapitre 6, où Jésus fait justement le parallèle avec la manne. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Et Jésus précise « Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts, mais vous, vous ne mourrez pas si vous mangez le vrai pain, le pain venu du ciel. » Et quel est ce vrai pain? Eh bien, c'est l'Eucharistie. Et c'est Jésus lui-même qui va se donner le soir de la scène où il va dire « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » C'est son sacrifice qui déjà s'annonce. D'ailleurs, il est frappant que les grands miracles de Jésus annoncent ce qu'il va vivre. Il y a la multiplication des pains, il y a l'eau changée en vin, c'est le précieux sang qui va être utile à l'Eucharistie, et les résurrections, comme Lazare, hein, qui annonce sa propre résurrection. Donc les miracles de la vie de Jésus sont des miracles qui annoncent sa propre vie et ce qu'il va faire pour son corps mystique, pour l'Église. Car dans le fond, ce qu'il veut, c'est notre bonheur, c'est la vie, et que la vie l'emporte sur la mort. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps où on est ainsi conduit au désert, où on reste au désert? C'est se décharger, décharger du poids de nos péchés et les remettre à la miséricorde de Dieu. Et c'est déjà l'apprentissage des Juifs au désert pendant ce temps, dans ce désert de Sinaï. Et Dieu leur apprend, à travers la loi, à travers le Lévitique en particulier, de présenter leurs offrandes au Seigneur. C'est ce que le Seigneur a ordonné à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes au Seigneur dans le désert du Sinaï. Vous voyez, c'était déjà cette offrande qui était prévue et une offrande qui est faite dans le sens de se décharger de ses péchés. Et ils avaient mis en place non seulement un sacrifice qui était offert à Dieu, mais aussi l'imposition des mains au bouc émissaire. Et ce bouc émissaire était envoyé au désert, à Azazel. On le placera vivant devant le Seigneur pour faire sur lui le rite d'expiation, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. On envoyait donc un bouc au désert, sans plus autre formalité que il périsse dans le désert, alors qu'un autre était sacrifié à Dieu en rite de communion, en rite de retrouver la communion avec Dieu dans la tente qui était au désert et qui se transformera après dans le temple de Jérusalem quand Salomon construira le temple de Salomon. On continuera ce double rite, d'un rite de communion avec Dieu et en même temps d'expiation qui est nécessaire, et en même temps de renvoi, des péchés d'une manière apotropaïque, c'est-à-dire pour ne plus être sous le joug du démon, en envoyant un bouc émissaire au désert, pour ne plus être assujetti aux forces du mal. C'est ça qui était l'idée de ce double bouc ou ce double taureau qui était offert, un pour l'expiation des péchés, l'autre pour être délivré de l'influence maligne. Voyez, parce que au désert, nous le savons, Jésus a rencontré l'adversaire du genre humain et il a commencé sa vie publique justement par cette adversité. C'est les fameuses trois tentations de Jésus au désert. Et on nous dit que après le baptême, donc au moment où a été manifestée l'identité de Jésus à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque les trois sont exprimés au moment du baptême, la voix par le Père, la colombe par l'Esprit, et Jésus qui descend dans l'eau, c'est le Fils bien-aimé du Père. Et d'ailleurs, le Père le dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc c'est une manifestation du mystère central des chrétiens, la Trinité qui se manifeste au baptême, et juste après, Jésus, on nous dit, est conduit au désert pour affronter donc le malin. Et que va-t-il faire donc en affrontant le malin? Vous connaissez les trois tentations que Jésus subit. La première, c'est de changer les pierres qu'on trouve évidemment nombreuses au désert en pain pour le nourrir. Au bout de 40 jours, il a faim, nous dit l'Écriture. Et Jésus résiste à cette tentation à travers quoi ? La parole de Dieu, le fameux Deutéronome, dans lequel, qu'est-il dit dans le Deutéronome ? Eh bien, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il ramène à l'identité de ce qu'il est. Il est la parole vivante de Dieu. Jésus est la parole, il est le Logos incarné, dira saint Jean, c'est-à-dire la parole incarné, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il renvoie donc à ce qui a été toute la révélation dont il est le concentré finalement. Parce que tout l'Ancien Testament, Jésus, d'une certaine manière, le résume en lui, la parole éternelle du Père. Et c'est ça qui est la véritable nourriture, la nourriture donc qu'il est venu apporter aux hommes. Et il renvoie le Satan. Donc, dans cette première tentation, probablement, le démon sait que Dieu a ce plan de ce que le Fils bien-aimé s'incarne, mais il ne sait pas trop qui, et il tente sa chance, vous comprenez, de se dire, peut-être celui-là, il a l'air d'être très saint, il a l'air d'être plein de lumière, on va peut-être essayer de le faire tomber comme tous les autres hommes qui sont à ma botte, parce que, dans le fond, le diable est toujours arrivé à faire pécher les hommes depuis Adam, depuis le péché originel. Et il tente sa chance sur Jésus. Mais Jésus le repousse une première fois dans cette première tentation. Puis à la deuxième tentation où il conduit Jésus sur le pinacle du temple. Et à ce moment-là, il lui dit, jette-toi d'en haut, puisqu'il est écrit, il est malin, il utilise lui aussi l'écriture, que selon le psaume, les anges viendraient au secours de Jésus. Et qu'est-ce que répond Jésus ? Évidemment, il le repousse en disant qu'il ne s'agit pas de tenter le Seigneur ton Dieu. Et il reprend le psaume et les passages de l'Écriture où il nous est dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » dans l'Exode ou dans le Deutéronome, où il nous est demandé de ne pas utiliser en vain le nom de Dieu et de ne pas le tenter. Et donc il repousse cette deuxième tentation qui était une tentation, dans le fond, d'une connaissance religieuse déviée, la connaissance des psaumes qui aurait pu conduire Jésus à anticiper des miracles qui n'étaient pas nécessaires à sa mission, se jeter du haut du pinacle et puis avoir des anges qui seraient venus le secourir. Mais Jésus a connu des anges qui sont venus le secourir. Par exemple, à Gethsémani, il y a eu des anges qui sont venus le consoler. Et puis même au désert, saint Marc nous dit que les anges sont venus le secourir, venir le consoler dans cette épreuve. Vous voyez, les anges donc ont bien été là, mais à bon escient selon l'économie de la mission divine et non pas selon les tentations du démon. Donc Jésus repousse cette deuxième tentation et puis alors il va tenter le tout pour le tout en voyant que Jésus résiste aux tentations de l'avoir et du savoir, il va le tenter par ce sur quoi les gens chutent assez facilement, c'est le pouvoir. Et il va dire à Jésus, « Si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. » Et Jésus, à ce moment-là, lui redit, « Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, arrière Satan. » Et il lui rappelle donc que notre devoir est un devoir de créature. Nous devons adorer Dieu, le trois fois saint, et ne jamais abuser des pouvoirs qui nous sont remis, qui nous sont remis pour le bien commun et non pas pour une sorte de suprématie sur les autres ou sur le monde, sur le cosmos, qui serait une déviance par rapport à le plan de Dieu, le désir de Dieu. Et de nos jours, on sait combien les paroles qu'on nous donne de l'économie, de le souci écologique de la planète, eh ben, se fait ressortir justement parce que l'homme est peut-être trop abusé de son pouvoir, voyez. Et nous avons besoin de nous le rappeler, et cette parole de Dieu nous aide beaucoup à repousser donc ces assauts du malin sur l'avoir, le savoir et le pouvoir. Et Jésus donc nous montre que dans ce désert, il n'avait pas besoin d'être tenté, il était tout à fait capable de, puisqu'il était trois fois saint, de ne pas affronter le diable, d'attendre seulement l'heure de la croix, mais il a voulu pour nous être tenté, si vous voulez, pour que nous sachions comment nous situer quand on est tenté. Quand on est tenté au désert, eh bien, il faut utiliser les armes de Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, la force aussi de nous donner toujours davantage. Et il est vrai que dans saint Marc, on nous dit que les mauvais esprits s'en vont par le biais du jeûne et de la prière. Donc voilà les armes du désert, le jeûne et la prière. Et c'est vrai que quand on est au désert, on est obligé de réduire son train de vie et on est obligé de jeûner d'une certaine manière. Il n'y a pas d'autre solution que de jeûner dans la mesure où la nourriture n'est pas en abondance. Donc le jeûne vient de lui-même, je dirais, au désert, et en même temps la prière, avoir plus de temps puisqu'on est moins pris par les autres choses du quotidien, on a plus de temps pour prier. Donc l'avantage de faire de temps en temps une retraite, vous voyez, pour un peu diminuer notre ordinaire de vie et en même temps être à l'écart et entendre le Seigneur qui nous parle, qui nous garde et qui nous instruit par sa parole à travers la prière. Voilà ce que dit le livre d'Ézéchiel. Je vous mènerai au désert des peuples et je vous y jugerai face à face. Comme j'ai jugé vos pères au désert du pays d'Égypte, ainsi je vous jugerai, oracle du Seigneur Dieu. Il y a comme, si vous voulez, quand on dit jugement, ça signifie une sorte de mise en vérité par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous sommes. Voilà, le jugement est toujours un jugement positif du côté de Dieu. Il veut nous sauver. Mais il faut que nous abandonnions certaines choses qui pourraient être contraires à la volonté de Dieu. Et donc, il y a une, quand on dit jugement, c'est un discernement, c'est une discrimination entre le bien et le mal. Il faut conserver le bien et repousser le mal. Et voilà que donc Jérémie ajoute encore, « Ainsi parle le Seigneur ton Dieu, il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite, Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Et par contre, le même prophète Jérémie met en garde, maudit l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire, il faut se méfier de s'appuyer sur l'homme et sur soi-même, et de s'appuyer même sur des institutions. On voit bien de nos jours, il y a de nombreuses institutions qu'on s'aperçoit faillibles et qui ont défailli pour le coup. Et nous devons donc revenir toujours à l'essentiel qui est s'appuyer sur le Seigneur et de ce qu'il a vraiment voulu pour nous à travers son Fils bien-aimé. Dans le livre donc du Deutéronome, c'est un livre absolument merveilleux qui est comme, selon la traduction du mot Deutéronome, la deuxième loi, qui récapitule qu'est-ce qui s'est passé finalement au désert pour les Juifs qui ont quitté l'Égypte et qui essayent de donner une leçon en quelque sorte pour éclairer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait au désert et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, vous avez en Deutéronome chapitre 1, verset 19, qui nous rappelle effectivement qu'il y avait un danger. Nous partîmes de l'Horeb et entrâmes en ce désert grand et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barné. Et à partir de là, il y a toute une leçon qui est donnée sur le pourquoi du désert. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu, oui ou non, garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain. Voyons, on reconnaît la parole de Jésus que je citais tout à l'heure. Et le texte ajoute, donc l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant. Et là, nous avons la fine pointe de la pédagogie de Dieu. Dieu nous conduit au désert et conduit son peuple ancien, le premier peuple de l'Alliance, et le peuple nouveau au désert à travers les carêmes successifs, justement pour qu'il y ait cette purification, non pas une humiliation pour nous humilier, mais pour faire une expérience dans l'humilité du cœur de Jésus, car Jésus dit bien « Je suis doux et humble de cœur » et il veut rendre nos cœurs semblables aux siens. C'est très important de comprendre cela. Donc ces humiliations ne sont pas à portée négative, mais à portée positive, c'est-à-dire des humiliations pour nous permettre d'acquérir un cœur doux et humble. Car comme disent les mystiques, c'est à force d'humiliation dans la vie que l'on acquiert un peu d'humilité, si vous voulez. Ben c'est ça, c'est une expérience vitale, mais vers laquelle, si nous n'avions pas la main du maître pour nous y conduire, nous n'y irions jamais, parce que c'est difficile de se dire, je vais rencontrer des difficultés, je vais rencontrer du combat, je vais rencontrer des maladies, etc. On recule à chaque fois, et on n'a pas envie de les affronter, et pourtant, c'est à travers elles, nous dit clairement le Seigneur, que finalement, il nous instruit au combat, il nous instruit dans ces grands axes de cette balance du cœur qui va faire que nous allons acquérir cette humilité qui est nécessaire à la vie spirituelle. À côté de cela, il va aussi nous apprendre à ne pas juger les autres, ce qui est très important, car dès qu'on commence à juger, on se prend pour Dieu, et ce n'est pas notre rôle. Nous devons donc lutter contre le mal, lutter contre les actes mauvais, mais ne jamais juger les personnes. Et troisième axe important, avec le non-jugement, l'humilité, c'est le discernement. Il faut discerner l'œuvre de Dieu et aller vers ce pourquoi la vérité, finalement, veut se manifester pour nous. Le prophète Michée le résume en trois axes, qui dit « On t'a fait savoir, homme, c'est en Michée 6-8, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Eh bien, on peut voir dans la première recommandation, hein, rien d'autre que d'accomplir la justice, ben, c'est de ne pas juger. Hein. Je n'ai pas à juger les autres, mais laisser le jugement à Dieu et au Christ. La bonté, eh bien, c'est le discernement qui me le donne, qui me permet de voir où est le bien et le bonheur, et refuser le mal et le malheur, et troisièmement, marcher humblement avec ton Dieu. Vous voyez, on retrouve toujours ce tripode qui est important, humilité, non-jugement, et finalement aussi discernement pour bien avancer dans les voies du Seigneur. Alors, à ce moment-là, dans ce désert qui semble un petit peu fermé et un peu, je dirais, à caractère sauvage et terrible, eh bien, nous avons l'espérance que ce désert va se transformer en verger. C'est le royaume qui advient, et Isaïe, au chapitre 35, nous le dit. « Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie, parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. » Et un peu plus loin, au chapitre 40, une voix crie « Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. » Et au chapitre 41, « Je ferai du désert un lieu d'eau et de la terre aride des eaux jaillissantes. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la steppe pêle-mêle, le cyprès, le platane et le buis, afin que l'on voie et que l'on sache et que l'on fasse attention et que l'on comprenne que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. » Donc il y a une promesse, vous voyez, de vie qui débouche sur ces temps de désert, car on peut dire que, dans le fond, la vie est un certain désert. Et si Jésus nous a montré qu'il aimait le désert, et que ce soit en Luc, en Matthieu, en Marc ou en Jean, il y a de nombreux passages qui nous disent que Jésus allait fréquemment au désert. Hein. Le jour venu, on nous dit, par exemple, en Luc 4, « Il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient, et l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir. » Ou encore, en Luc 5, 16, « Lui se tenait retiré dans les déserts et priait. » Vous voyez toujours ce lien entre la prière et le désert. Ou encore en Marc, « Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. » Vous voyez, toujours hein, ce souci de nous montrer que Jésus est comme attiré au désert pour prier. Une fois parti, Jésus se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors dans des lieux déserts. Vous voyez, le lieu désert lui sert de refuge. Hein. Et il le conseille à ses apôtres, en Marc 6, 31, « Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » C'est merveilleux, vous voyez. Donc on a un appel extrêmement explicite du Seigneur de trouver un peu de repos par rapport à notre quotidien, d'aller au désert, dans un monastère, d'aller dans un lieu peut-être d'ermitage, vous reposer un peu et retrouver le goût de la prière, le goût de la parole de Dieu. En Jean 11, verset 54, il nous est dit que Jésus cessait de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert. Voyez. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés dans les 3 années de vie terrestre, de vie publique de Jésus au cours de sa vie terrestre, eh bien, il a très souvent fait des pauses au désert. Et je crois que c'est important pour nous, pour l'histoire de l'Église. Hein, lorsqu'il est en barque, il n'hésite pas à aller dans un lieu désert à l'écart et pour alterner les temps de foule et les temps de cœur à cœur avec Dieu. Voyez, donc c'est important pour nous de le comprendre. Et au chapitre 3 de Saint Jean, on nous rappelle que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Alors on regarde surtout le serpent élevé hein, comme comparaison, mais Jésus a quand même ajouté « dans le désert ». Et donc c'est important, on ne comprend bien la croix qu'au désert. Je crois que c'est une grande leçon pour nous, bien comprendre la croix de Jésus, on la comprend au désert. Parce qu'on prie plus, on se rapproche de son cœur, et on voit que là où son cœur est ouvert, c'est sur la croix. Son cœur est percé, il coule le sang et l'eau, qui nous annonce les sacrements de l'Église, et c'est dans cette contemplation qu'on comprend mieux le rôle de Jésus. Alors, que dire encore? Eh bien, en un certain sens, on peut dire que le Christ est notre désert. En lui, nous avons la possibilité de surmonter les épreuves. En lui, nous avons la communauté parfaite avec Dieu, puisque déjà, c'est une certaine communion avec le ciel qui nous attend. Aucune illusion, nous vivons encore notre vie quotidienne dans un certain désert, mais il faut de temps en temps actualiser ce désert en le rendant plus réel pour bien comprendre où nous en sommes, pour discerner le bien et éviter le mal. Et nous le vivons aussi, ce désert, sacramentellement, puisqu'à chaque fois que nous communions, que nous recevons les sacrements de l'Église, et bien d'une certaine manière, nous sommes avec Jésus sur la croix, et au désert. La figure du désert reste donc indispensable pour comprendre la nature de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Merci de votre attention et bon carême.